Vous écoutez Les Contes de la Cité Ouest. Cinquième épisode, Mémoire et Injustice.
Un IRM au cerveau, et effectivement, il a eu une tumeur au cerveau. Donc ça, c'était en 2012. Donc, il a été opéré urgemment parce que c'était une tumeur qui était très grosse, apparemment. Donc, ils l'ont opéré le lendemain après l'IRM, je crois, le lendemain ou deux jours après, ils l'ont opéré. Et ça allait mieux, d'après les médecins. Donc, la tumeur a été complètement supprimée, enlevée. Et donc, ils n'ont pas fait de la radio ni de la chimio pour le moment. Malheureusement, en 2015, la tumeur a réapparu, elle a recommencé à revenir. Donc, ils ont fait de la radiothérapie et de la chimio. Ils ont fait ça pendant un certain temps. Pendant le traitement à mon frère, moi, j'ai fait une crise d'épilepsie en allant au travail aussi. J'étais en voiture avec un collègue de travail. Heureusement, je ne conduis pas, donc j'étais à côté du conducteur. J'ai fait une crise d'épilepsie sur l'autoroute. Enfin bref, grosse crise d'épilepsie. Je sentais déjà avant de faire la crise d'épilepsie, je sentais que j'avais quelque chose de bizarre. Je commençais à avoir des odeurs que personne ne sentait. Je commençais à sentir que ça sentait le brûlé. Je sentais qu'il y avait quelque chose déjà de bizarre. Je pensais déjà que j'avais un problème au cerveau vu que mon frère il avait eu ce souci-là. Il a eu les mêmes sensations que moi. Donc je me suis dit, j'ai ce problème au cerveau. Et effectivement, ils ont fait l'électroencéphalogramme, comme je l'ai dit, pas de problème. Et ils ont fait un IRM cérébral. Ils ont vu que j'ai une tumeur aussi. Et c'est là qu'ils se sont dit, c'est bizarre, comment deux frères ils ont une tumeur au cerveau. Il y a un lien entre les deux. Et c'est là qu'ils se sont dit, on va faire un test génétique pour comprendre d'où ça vient tout ça. Et c'est effectivement, ils ont fait un test génétique complet sur moi et mon frère, et ils ont vu qu'effectivement, il nous manque un gène, le gène que tout le monde a, Dieu merci, j'espère qu'il y en a très peu qui ne l'ont pas, 400 familles sur Terre, c'est ce que je disais avant, c'est le syndrome Li-Fraumeni. Il nous manque le gène P53, et ce gène lutte contre les cancers. Donc je suis né, on est né du côté de notre maman, sans ce gène P53 qui lutte contre les cancers. Donc on a développé des tumeurs beaucoup comme ça dans la famille, et ce qui a été ce qu'on a enfin compris par la suite, désolé de parler bizarrement, c'est à cause de ça, qu'est-ce que je voulais dire, oui, on s'est rendu compte de ce qu'on a comme problème, parce que quand effectivement ils ont fait un test génétique, ils ont vu qu'on a le syndrome Li-Fraumeni. Il faut surtout pas faire de la radiothérapie ni de la chimiothérapie parce que ça va nous attaquer. Et c'est enfin, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais on a enfin compris pourquoi tous ces gens de notre famille sont décédés très rapidement, très vite, gravement malades. Pourquoi tout le monde malade? Bah, c'est ce syndrome Li-Fraumeni qu'on a. C'est parce qu'il nous manque le gène P53. Donc, il nous manque ce gène qui lutte contre les cancers, je me répète. Et c'est pour ça que moi, mon frère, notre maman, mon cousin, enfin, c'est pour ça que tout le monde a développé des tumeurs et des cancers, c'est à cause de ce syndrome-là.
C'est le premier enregistrement que j'ai réalisé de Christophe. Ça s'est passé dans une galerie d'exposition, à côté de la salle où nous répétions ce spectacle sur l'Égypte, le 6 juin 2022. C'est ce jour-là qu'a commencé de naître en moi ce sentiment encore flou qui me soufflait que je ne pouvais pas laisser Christophe comme ça, qu'il fallait que je fasse quelque chose pour lui, avec lui. C'était comme si je m'étais retrouvé soudainement face à une dette indéfinissable et dont l'existence était dormante en moi depuis des années. Mais la nature exacte de cette dette, je ne la connaissais pas encore. En tout cas pas à ce moment-là. Oui ?
Fällig, hein ?
C'est David.
T'as fait, ça ?
Voilà. Donc, alors, aujourd'hui, c'est le premier entretien, le 21 octobre. Je te dis le premier parce que si c'est ok pour toi, je pense que plutôt qu'on ne va pas faire 4 heures en une fois, mais on fait des petites. Je me proposais qu'on fasse peut-être 2-3 rendez-vous comme ça,
ouais,
où on discute parce que je pense qu'à chaque fois, je reviendrai peut-être avec des nouvelles questions.
Ouais, ouais, bien sûr, aucun problème.
Et puis comme ça, ça évite qu'on fasse un super bloc d'un coup,
ouais, ouais,
tranquille. Et
en plusieurs fois, voilà. C'est ça que tu veux dire, ouais, pas de souci.
Et parce que peut-être que certaines fois, je reviendrai.
Lorsque je suis arrivé chez lui, je me suis demandé qui c'est que j'allais retrouver après toutes ces années sans se voir réellement. J'ai vite compris que, malgré tout ce qui lui était arrivé, Christophe n'avait pas perdu son sens de l'humour.
T'avais des ennuis. Bon, j'avais aussi des ennuis avec toi, avec la police. On l'a lu. Après.
Dieu sait ce que j'ai écrit.
T'avais écrit « Vous m'avez même pas vu, bande de nazes.
Et tu te rends compte ?
Ah, c'est un ouf. Moi, les plus grands fous rires que j'ai eu de ma vie, c'est avec lui. C'est vraiment... il me terrasse.
Mais il a encore cette... des fois, je m'éloigne trop, je suis désolé, mais... il a encore cet humour que moi, je pense, que 80% des gens n'auraient pas, et cette force mentale d'être encore ici. Parce que je pense que la plupart des gens... qui aurait peut-être ne serait-ce que la moitié de ce qu'il a, ce serait déjà suicidé.
Non, moi j'ai quand même un de mes souvenirs quand même qui est le plus beau avec Christophe, c'est que c'est quand même une personne qui a toujours été quelqu'un de très drôle. Fondamentalement, c'est quelqu'un qui veut toujours faire des blagues, rebondir ou être un peu taquin, tu vois. Et ça, c'est juste incroyable. Ouais. Christophe, il y a toujours ce truc, tu vois, malgré sa maladie et puis tout ce qu'il a eu, il a toujours un peu ce petit côté un peu rigolo, tu vois, avec son accent, il a des mimiques, tu sais, des fois il fait comme ça, il parle, il te montre, et il parle avec ses gestes, il fait tu vois, je comprends, des trucs qui sont très propres à lui, tu vois. Quand il te parle, il va te parler un peu avec les mains, avec ses doigts, un peu comme un magicien, tu sais.
Mais tu t'éclates, tu rigoles. Il est tout le temps en train de faire des blagues, tout le temps, c'est... Non, c'est excellent. Moi, j'adore. Puis de l'humour noir. Putain, c'est magnifique. Moi, je suis très comme ça aussi, tu vois. Moi, il n'y a rien qui me touche. Enfin, je veux dire, tu... Fais-moi des blagues sales. J'adore ça, quoi. C'est ça qui va me faire rire, tu vois. Et lui, il est très comme ça, tu vois. Plus con, tu meurs. Il te l'a fait, celle-ci, non? C'est obligé. Il l'a fait tout le temps.
Dans le 2 secondes,
ouais. Ouais.
Wesh mon boogie bunch. Ça mon ref. Et faut que tu me rappelles dans une petite heure parce que je suis en train de faire un truc hyper important.
Au fur et à mesure des rencontres des dernières semaines, je n'ai pas pu m'empêcher de me dire ceci. Certaines choses auraient dû se passer autrement. Par exemple, pourquoi Christophe et Christian n'ont-ils pas bénéficié d'un soutien psychologique adéquat après le décès de leur mère et puis de leur cousin ? Lorsque j'en parle avec Christophe, voici ce qu'il me raconte.
Psychologiques qui ont été organisés ou...
Tous les soutiens, je sais pas comment on peut... Oui, je sais pas si on peut... Mais moi, par exemple, je sais pas, un psychologue, par exemple. Ça... Oui, moi, par exemple, moi, dès le décès de ma mère, je suis allé voir un psychologue. Elle m'a fait un truc de fou. Elle a commencé à dessiner un arbre généalogique. C'est là où tu mets toute la famille, c'est juste, hein. Mec, c'est un truc de fou. Ça, je sais pas si je t'avais raconté. C'est un truc de fou. Elle m'a. Donc moi, c'était la première psychologue. Il fallait que j'aille voir une psychologue parce qu'apparemment j'étais un petit peu énervé contre la vie. On m'a dit il faut que t'ailles voir une psychologue. Nanana, ça ira mieux. Bref, je suis allé. Puis elle a commencé à dessiner un arbre généalogique de la famille. Puis je lui explique que ma tante est décédée, que ma mère est décédée. Puis elle met des croix dessus, t'sais, sur le. Je te jure, sur l'arbre généalogique, elle met des croix sur ceux qui sont décédés. Et là, mec, dans le truc, j'ai vu ça, mec, j'ai vrillé, tu vois. Je me suis levé, j'ai rien physiquement, pas du tout, mais je l'ai envoyé chier. Je lui ai dit que j'allais me casser maintenant parce que c'est quoi qu'elle me dit des croix sur le truc. Je sais très bien qu'ils sont morts, mais pas besoin de dessiner, d'écrire leur nom puis mettre une croix dessus. J'ai dit. Puis elle, en fait, je sais pas, peut-être c'est un truc psychologique pour bien. J'en sais rien, j'ai pas essayé de comprendre, mais peut-être que maintenant, avec toutes ces années, je me dis peut-être que. Bah, c'est sûr qu'elle était pas là pour me blesser, mais peut-être qu'il y a un truc là derrière qu'elle se dit bah peut-être qu'il faut qu'ils réalisent vraiment qu'ils sont partis malheureusement, alors elle fait une croix dessus, enfin j'en sais rien, qu'est-ce qu'elle a pensé dans sa tête, mais moi quand j'ai vu ça, j'avais elle est morte, j'avais 14 ans, donc je pense que j'en sais rien, je devais avoir 16 ans peut-être, et puis moi ouais, je l'ai envoyé chier quoi, puis je suis plus jamais retourné voir une psy, tu vois. Mais je sais pas si c'était ça la question.
Ouais c'était ça.
Il n'y a pas eu de suite à ces rendez-vous. Je sais qu'il ne sert à rien de chercher des responsables aujourd'hui. Et de toute façon, pour m'y être un peu hasardé, mes questions auprès des autorités sont à l'heure actuelle restées sans réponse. Cela remonte, me dit-on, à trop longtemps. Une injustice récente, pourtant, continue de me hanter. Christophe me la raconte alors que nous nous retrouvons ensemble une énième fois pour discuter. Donc voilà, on est dans la tour de la Cité Ouest, où toi t'as habité.
Exactement.
On est à l'étage où t'as habité même.
On est même à côté de la porte où j'habitais même.
Ouais.
Et on rentre au sixième étage là, la porte qui est juste en face, c'était chez moi. Enfin chez moi, chez nous, la famille. Mmh. Mais à la fin, ouais, j'étais tout seul ici.
Dieu. Ça te fait quoi du coup d'être à côté là, c'est marrant?
Bah je t'avoue que ça me fait plaisir, ça me rappelle des souvenirs de fou. Et puis le seul truc qui a changé, c'est la couleur. Ils ont repeint, ils ont refait
la rampe d'escalier.
Ouais, la rampe d'escalier, ils ont changé, ça se voit la couleur, ils ont repeint, enfin ils ont refait tout à neuf, mais ça a la même forme, enfin, c'est exactement la même chose qu'avant, c'est juste qu'ils ont repeint pour refaire à neuf, entre guillemets. Il faut que je dise les bons mots, hein, parce que des fois je dis les mauvais mots à cause de ma tête, mais il y a clairement un problème. Je sais pas si c'est. Ce que je disais, c'est que moi, en fait, j'ai été jugé déjà en 2015, donc ça fait déjà, au jour d'aujourd'hui, ça fait déjà 7 ans que j'ai été jugé. Pour revenir en arrière, on m'a jugé en 2015, juste avant le début de l'année 2016, on m'a jugé. Et on m'a donné 2 ans de prison ferme, que je dois rentrer en prison en fin 2016, ou je ne sais plus exactement quand. Puis c'est là que il n'y a pas de problème, mais j'allais me pointer, j'étais pas en train de fuir. Je me serais pointé en prison jusqu'au jour où j'ai fait, je ne sais pas si je t'avais raconté, j'ai fait une crise d'épilepsie. Je vais aller très bref, hein, on m'a fait des examens, ils m'ont fait un IRM cérébral, ils ont vu une grosse tumeur, ils ont dû m'opérer assez rapidement. Et puis, donc depuis mon jugement, donc 2015, et d'apprendre mes soucis de santé, je donnais un certificat médical depuis fin 2016, expliquant comme quoi j'ai un gros souci de santé, que je suis toujours malade. Donc, j'ai donné mon certificat médical tout au début, ensuite, ils se sont rendus compte que j'avais des gros problèmes de mémoire, donc c'est là que je suis passé sous curatelle officiellement, et que c'est mes curatelles, curatrices qui recevaient mes courriers, et elles qui s'occupaient de répondre à mes courriers, de s'occuper de mes certificats médicaux en l'occurrence, certificats médicaux. Et puis donc, il y a en année 4 ans après mes problèmes, en 2020, c'est là où, pour faire très bref aussi, encore une fois, la police, je me présente au poste de police pour récupérer un portefeuille que j'avais perdu, enfin bref, et puis c'est là que ils m'ont amené en prison. Et j'espère que je parle pas trop, je t'avais raconté. Hein.
Ouais, mais...
Et puis donc, certes, j'ai fait des bêtises dans ma vie, j'étais prêt à les payer, mais dès que j'ai eu mes problèmes de santé, c'est pas de ma faute. Tout simplement, quand ma curatrice a eu un problème de santé elle-même, tous les couillers sous recommandés, ils étaient renvoyés chez les expéditeurs, donc la justice, n'importe qui. Et c'est là justement que les flics, ils ont vu que,
que j'étais entre guillemets absent, je répondais plus aux courriers, j'envoyais pas de certificat médical, mais moi j'en étais pas du tout conscient, vu que déjà j'avais des gros problèmes de mémoire, mais en plus de ça, vu que la première curatelle elle s'occupait de ça, je me suis dit bah ils sont en train de s'occuper de ça, c'est eux qui s'occupent de mes courriers, ils m'aident quoi. Donc je me suis dit tout va bien, jusqu'au jour où je me suis pointé moi-même au poste de police pour récupérer un portefeuille et qu'ils m'ont mis en prison. Si j'étais vraiment terroriste ou que je savais que j'avais fait des bêtises et que j'avais peur d'aller en prison, bah, je ne me serais tout simplement pas pointé au poste de police. Je me suis pointé au poste de police pour récupérer un portefeuille avec même pas un franc dedans. Donc je venais simplement récupérer un portefeuille. Si j'étais vraiment en train de fuir, je ne me serais jamais pointé moi-même. Et puis si j'étais au courant qu'ils n'avaient pas le certificat médical, bah, avant de me pointer chez eux, j'aurais tout simplement demandé à l'hôpital un certificat médical expliquant que j'ai des tumeurs au cerveau. Ils m'auraient fait un papier en 30 secondes, je l'aurais donné au poste de police, puis ils m'auraient laissé partir. Mais vu que moi, dans ma tête, j'étais sûr et certain que ma paperasse, elle était que les curateurs s'occupaient de toute ma paperasse, bah là, en l'occurrence, vu que cette fameuse dame a eu des problèmes de santé aussi, bah, c'est tombé pile poil au mauvais moment. Et puis bah, c'est là que les flics ils m'ont mis en prison. Mais j'avais pas fait une bêtise depuis qu'ils m'ont attrapé, quoi.
Il n'avait rien à faire là-bas en vrai, avec la maladie qu'il a et tout ça. Tu peux pas incarcérer un mec qui a ce qu'il a, tu vois. Ça nous a tous surpris, ouais. Je comprends pas qu'est-ce que. Tu peux pas le mettre en prison, il a une tumeur au cerveau, le mec. Je veux dire, faut. Là, ils l'ont pas écouté, hein, clairement, en fait. Hein. Puis une fois que t'es dedans, tu ressors pas comme ça, en fait. Avec toutes les démarches administratives qu'il y a à faire, il y a tout qui prend du temps, quoi.
Mais il a quand même fait un peu de prison, hein.
Oui, il m'a raconté, oui.
Et c'est justement quand Christian était à l'hôpital. Et là, il devenait fronfou, hein. Parce qu'il aurait jamais dû faire ça. Il aurait jamais dû y aller. Enfin, il a fait des conneries, ok. Mais par rapport à son traitement et tout, il aurait jamais dû aller en prison.
C'est la juge qui est censée juger les gens. C'est pas vous, monsieur et madame de la police, qui allez me mettre en prison. J'aurais dit, amenez-moi chez la juge, celle qui décide de ma situation. Et puis c'est là que, bah, clairement, il y a un problème de paperasse, ou je sais pas comment dire, mais ils m'ont amené direct en prison, au lieu de m'amener chez la juge. Et puis, bah, au bout de 2 mois de prison, ils ont dû faire une demande, je sais, enfin, bref, ça c'est encore un autre sujet, mais ils se sont rendu compte qu'effectivement, j'avais rien à foutre en prison, et ils m'ont sorti au bout de 2 mois. Mais à la base, quand je suis rentré en prison, je leur ai dit, vous savez que vous faites une erreur, j'ai pas le droit, vous devez pas me mettre en prison. Puis ils m'ont dit, bah, écoutez, à l'hôpital, il y a des médecins. Et je suis allé voir des médecins à l'hôpital, je leur ai dit, j'ai des gros problèmes de santé. Ils m'ont dit, on a pris des renseignements sur vous, on voit qu'effectivement, les médecins à l'hôpital, ils m'ont dit, écoutez, je ne veux pas vous rassurer, mais à mon avis, il y a une erreur à quelque part parce que vous ne devriez pas être en prison. Elle me dit, je vois votre dossier là, il y a un gros problème. Vous ne devrez pas être en prison à mon avis. Ils m'ont dit, je pense qu'il y a un problème de communication. J'aurais dit, écoutez, il y a un vrai problème parce que je suis gravement malade. J'ai rien à foutre en prison. Au bout de 2 mois, un peu plus de 2 mois, ils m'ont dit, vous pouvez sortir. Je suis sorti de prison et puis... Ah oui, mais à la base, ils me disaient, non, les gardiens, ils m'ont dit, bah, nous, les seules infos qu'on a sur vous, c'est que vous êtes là pour 2 ans. Je leur ai dit, non, mais vous faites une erreur. Ils m'ont dit, écoutez, nous, dans les dossiers qu'on a sur vous, nous, on n'est pas le juge ou quoi que ce soit, nous, les seules informations qu'on a sur vous, c'est que vous devez être ici en prison pour 2 ans. C'est tout. On n'a pas plus d'informations sur vous, on a votre nom, votre prénom, mais on ne sait pas les bêtises que vous avez faites, on ne sait pas pourquoi vous êtes là. Nous, notre travail, on est en train de le faire maintenant. Il faut vous. Enfin, renseignez-vous ailleurs. Et puis, bah, c'est là que. J'ai commencé à me dire, il y a un vrai problème quelque part. Et puis c'est là que j'ai expliqué ça aux médecins en prison. Et puis eux, ils ont commencé à essayer de se renseigner. Enfin, je sais pas. Puis après, à côté de ça, bah, il y a les proches qui ont fait le nécessaire pour me donner un coup de main. Ouais.
D'accord. Alors moi, je me présente. Je m'appelle Alima. J'ai 30 ans. Ça fait à peu près 5-6 ans que je suis en Suisse maintenant. Donc je viens de la région parisienne, dans le 93, en Seine-Saint-Denis. Où j'ai passé toute mon enfance, voilà. Donc ce qui m'a fait arriver en Suisse, c'est un peu le hasard, on va dire. J'ai suivi une copine un petit peu comme ça dans des aventures saisonnières. Et puis après une année dans les Caraïbes, en fait, on n'a pas pu retourner travailler. Du coup, ben, elle m'a proposé la Suisse et on a atterri toutes les deux ici. Et 5 ans plus tard, je suis toujours là. Alors Christophe, je l'ai rencontré sur un site de rencontres. C'était la première fois que je m'inscrivais sur un site de rencontre, en fait. C'était mon ancien coloc avec qui j'habitais ici, dans cet appartement, qui, lui, était tout le temps fourré sur son téléphone. Et du coup, il a fini par m'inciter à le faire. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et donc, j'ai fini par rencontrer Christophe. Et donc, on s'est beaucoup parlé avant de se voir. Et puis, quand on a pu se rencontrer, bah ouais, pour moi, c'était... je suis tout de suite tombée amoureuse, on va dire, vu qu'on avait déjà fait pas mal connaissance avant. Le fait de le voir, c'était, pour moi, c'était comme une évidence. Donc voilà, on s'est rencontrés un petit peu comme ça. Après, on a passé beaucoup de temps ensemble et voilà, aujourd'hui, ça fait 4-5 ans, je crois, maintenant, donc tout roule. Donc je pense qu'il a dû, en parler, mais c'est vrai qu'il a eu quelques soucis avec la justice par le passé, donc avant qu'on se rencontre. Et en fait, il avait une curatrice qui était censée donner voilà, des certificats médicaux à la justice pour éviter qu'il aille en prison parce que malheureusement, il est malade, mais heureusement, bah, il n'est pas apte à faire cette peine. Voilà. Du coup, donc cette année, c'était en 2020. Donc cette année-là, je pense que sa curatrice a eu quelques soucis. Et elle n'a pas pu envoyer ce fameux certificat à la justice, ce qui a fait que Christophe était, on va dire, entre guillemets, recherché par la police. Vu qu'il avait fait le déménagement et que dans tout ça, ben, on va dire, le changement d'adresse s'est mis un peu entre tout ça, je pense qu'il y a eu un gros malentendu. Et ce qui fait que voilà, Christophe a été arrêté et a fait 2 mois de prison. Pendant ces 2 mois, c'est à ce moment-là où la santé de son frère, du coup, s'est dégradée pas mal. Où il a justement fait une chute dans les escaliers, où il s'était... casser la cheville, etc. Et du coup, donc en plein Covid, donc c'est tout nouveau, c'est mondial, c'est inconnu. Je me retrouve donc en remplacement dans un salon de coiffure où je peux absolument pas m'absenter. Christophe qui vient de se faire arrêter, son frère quelques jours plus tard qui tombe dans les escaliers, les frontières qui se ferment, tout qui... Oh, j'étais vraiment... C'était vraiment le... Comment dire ? J'étais complètement perdue.
Je suis sortie de prison, ils m'ont fait un IRM cérébral et ils m'ont dit il faut qu'on vous opère tout de suite. Parce que si en prison, ils m'avaient gardé en prison et que j'aurais pas fait un IRM cérébral, bah, je pense que je serais déjà mort. Parce que suite à l'IRM, ils m'ont dit à l'hôpital, il faut qu'on vous opère tout de suite, mais même pas dans une semaine, il faut qu'on vous opère demain, sinon vous allez mourir dans même pas une semaine. Donc si en prison, ils m'avaient gardé, bah, les tumeurs elles étaient déjà en train de grossir, donc je peux pas deviner le futur, mais... ou le passé, mais ouais, il se serait passé... Enfin, j'aurais eu des grosses galères cérébrales, on va dire, quoi.
Du coup, ouais, ça a été un gros choc, on va dire. Donc, une fois qu'il est sorti de ses 2 mois de prison, après tout ça déjà, 2 semaines après, il fait un IRM, et là, on apprend qu'il a une tumeur. Et donc là, ça a été... ça a été vraiment un choc, en fait, je pense, parce que c'était trop... on savait vraiment plus où mettre, où mettre la tête... Et bah après, me concernant moi, c'était la panique. Là, je me suis mis en mode robot. Je me suis dit, on pleurera plus tard, on se plaindra plus tard. Là, il faut y aller, quoi. Donc, j'ai fait ce que j'ai pu. On m'a beaucoup aidée aussi. Je pourrais pas faire la liste aujourd'hui, mais je sais que voilà, ma famille, mes plus proches n'étaient pas là. Malheureusement, ils ne pouvaient pas. Mais heureusement, j'ai quand même eu du soutien dans cette épreuve qui a été... Rien que d'en parler, j'en tremble. Je me revois la tête sous l'eau, c'est... Mais voilà, c'est du passé. Ça, voilà, on a fait ce qu'on avait à faire et aujourd'hui, tout va bien. Donc, s'il faut le refaire, on le refera.
J'ai essayé de joindre la police municipale de Lausanne pour en savoir plus au sujet de l'arrestation de Christophe et de son incarcération. J'ai aussi essayé de contacter le CHUV, histoire de connaître un peu mieux les tenants et aboutissants de son séjour en prison. Mais pour l'un comme pour l'autre, je n'ai pas eu de réponse. Et donc, par honnêteté intellectuelle, je ne peux pas vraiment me prononcer là-dessus. Je reste donc seul avec cette question. Pourquoi ne l'ont-ils pas cru quand il a dit qu'il ne pouvait pas être enfermé?
Mais je crois que ça fait quand même quelques années où ils savent que c'est génétique et puis ben c'est vrai qu'ils auraient pu Après, c'est comme tout le temps, il faut de l'argent, c'est à des coûts tout ça. Et puis, ben, si on n'a pas des bonnes assurances, si on n'a pas des gens derrière qui poussent pour motiver, pour les recherches, pour pouvoir avancer, aller chercher des spécialistes toujours plus loin, même changer de pays ou des choses comme ça, ben, malheureusement, ça avance pas. Et puis, par contre, la maladie, ça avance très vite.
Je n'habitais pas dans la même tour que Christophe, à la Cité Ouest. L'immeuble dans lequel je vivais se trouvait au bord de l'autoroute et il était doté de très grandes cheminées vertes. J'y suis retourné l'autre jour après notre enregistrement. Des enfants jouaient et criaient sur les balançoires de la place de jeu. Il faisait froid. Et l'immeuble aux cheminées vertes avait toujours sa façade d'un beige fatigué et ses balcons aux rambardes de métal brun et froid. Son apparence n'a pas vraiment changé depuis l'époque où j'y habitais, dans cet appartement du rez-de-chaussée qui donnait sur la pente et le gazon. Les cheminées vertes ne sont pas visibles depuis le banc où je me trouvais assis, mais je savais qu'elles étaient toujours là. Je les vois tous les jours depuis l'autoroute qui les caresse. Et je peux bien me mettre à rouler à 100, à 120, même plus. Jamais je n'oublie de jeter un coup d'œil vers ces cheminées. Et jamais ma mémoire ne me fait défaut. C'est comme s'il y avait toujours quelque chose à se rappeler. Pour quelqu'un qui n'a jamais vécu ici, ces immeubles du bord de l'autoroute seront au mieux des façades anecdotiques, de celles qu'on imprime vaguement dans un coin de sa rétine. C'est à peine si on y prête attention. J'ai même parfois entendu des gens du coin me dire qu'ils n'avaient jamais remarqué les deux tours qui dominent la Cité Ouest. Pourtant, vous ne pouvez pas les manquer si vous roulez en direction de Lausanne. Elles dépassent de leurs 13 étages la forêt de la Sérine. Bien sûr, elles ne signifieront rien pour celui ou celle qui n'y est jamais entré. Mais pour moi, elles signifient tout, puisqu'elles ont toutes les deux abrité en leur sein, chacune à tour de rôle, la vie et les souvenirs de Christophe et de sa famille. Je n'ai gardé aucun souvenir sur notre arrivée dans la Cité Ouest ou sur mes premières rencontres avec Christophe. J'étais bien trop jeune, et donc je suis allé voir mes parents l'autre jour pour leur demander si eux s'en souvenaient.
C'est quoi les questions? Ah non, attends, c'est quoi?
Non mais c'est bon, t'inquiète.
Je sais pas de quoi dire, là, de lui.
Je sais pas quoi dire.
De non lui. Mais j'ai des questions.
Oui, il pose des questions, on répond. Non, j'ai pas de souvenir vraiment des premières fois. C'est un petit peu une sensation comme si ça avait toujours été ton copain, en fait. Voilà, j'ai pas le souvenir du début. Mais après, j'ai plein de souvenirs, de puisqu'il venait souvent à la maison, qu'on a partagé des bons moments. Donc, c'est plutôt ça qui me reste. C'est pas le début précisément, en fait.
Bah, je pense que tu es arrivé avec Christophe une fois à la maison, comme d'habitude. Qu'on a reçu tous les, comme on reçoit tous les copains des enfants. Et puis après, moi, les souvenirs que j'ai maintenant sont déjà que vous étiez déjà bien copains et qu'on avait déménagé déjà et qu'ils venaient nous voir et on s'en rencontrait là où dans la ferme qu'on louait pour les chevaux. Et les aventures qui se sont passées là-bas.
Parmi toutes les histoires qui m'ont été racontées par les amis et les proches de Christophe, une en particulier a retenu mon attention.
Ouais. Bon, attention, on avait 12-13 ans. Hein. On avait déjà fait du repérage dans des bureaux, je crois que c'était des bureaux de sécurité, un machin comme ça. Et c'était un bureau qui était à la Cité Ouest. Et bah, nous, gamins comme ça, on s'était dit, bah, vas-y, viens, on se fabrique des cagoules et tout. Nous, on avait pas les... on ne savait pas où on allait acheter des cagoules et tout ça, quoi. Donc on a commencé à se fabriquer des cagoules tout seul. Puis bah, je suis arrivé à la Cité Ouest, machin, il m'a dit bah, « bah t'as fait ta cagoule et tout ». Lui, il m'avait sorti un truc dégueulasse, un machin Spider-Man un peu, je m'étais foutu de sa gueule. Il m'avait tué. Et j'ai dit « bon, bah, vas-y, go hein. ». Et puis on avait fait une petite infiltration, on était passé sur le toit, on avait descendu la vitre. On avait fait un truc bien, machin, on avait trouvé une caisse avec des thunes. Je crois que ouais, il devait y avoir, je sais pas, 1000 balles, je crois.
Si cette infraction et ce vol en particulier ont retenu mon attention, c'est parce que j'ai commis pratiquement la même infraction et à peu de choses près le même vol avec Christophe quelques temps plus tard. En fait, en ce qui nous concerne les deux, c'est un peu l'événement qui a fait qu'on s'est moins vus après, quoi.
Exact. Ouais, parce qu'on a fait une connerie ensemble. On s'était fait attraper. Et puis, si je me rappelle bien, on était dans le truc des Securitas. On a vu un Securitas qui a vu qu'on était en train, bah, qu'on s'est infiltré dans le truc. Et on s'est barré en courant. Et si je me trompe pas, on est sorti à un endroit différent. Moi, je suis sorti dans la première sortie. Enfin, quand je dis la sortie, ouais. Je suis sorti le premier. Toi, t'as continué tout droit. Et le Securitas, il est sorti vers moi. Et ils m'ont attrapé. Et toi, tu t'es arrêté. Ou je sais pas si ils t'ont attrapé ou si tu t'es arrêté toi-même parce que t'as vu que je me suis fait attraper. Mais on était. Ouais, je crois qu'on n'était pas parti exactement au même endroit. Peut-être je me trompe, je sais pas.
Non, c'est vrai, j'ai vu que tu t'étais fait arrêter, et puis bah moi il m'avait pas eu quoi,
ouais.
Mais bon, je veux dire, à ce moment j'ai réfléchi deux secondes et je me suis dit mais de toute façon, tout le monde sait que j'étais avec toi, et puis je me suis dit bah, en plus je vais pas le laisser tout seul dans sa merde, donc du coup je suis revenu en arrière.
Mais... le moment même, t'es venu.
Ouais, ouais.
Ok.
Ouais, 5 minutes après. Ouais, ouais. 5 minutes après, j'ai repris mon souffle, puis je suis revenu en arrière.
Et puis tu t'es rendu, quoi.
Ouais.
Je sais pas. Bah, je suis content, c'est pas le bon mot. T'es pas une baltringue, comme on dit. T'es pas une baltringue, tu vois ce que je veux dire. Mais là, t'aurais même pas dû. T'aurais dû te mettre en sécurité, toi. Je me suis fait attraper, tant pis pour moi. Chacun pour sa gueule. Là, je dis ça en rigolant, mais ouais, bah, la preuve comme quoi t'étais. T'es toujours, mais t'étais quelqu'un de vrai déjà et tu voulais pas me laisser tout seul en train de me faire tacler tout seul. Donc, mais à cause de moi, tu t'es fait tacler du coup. Bon, tu t'es rendu.
Tu vois,
donc c'est pas de ma faute. Ah, on avait aussi les cagoules.
Ouais, on avait les cagoules, bah.
Ça aussi, petit détail, j'avais oublié. Je sais qu'on avait fait des cagoules nous-mêmes.
Oui, oui.
Peut-être c'était ceux-là, alors.
Ouais,
je sais ça. Que je les avais utilisés avec Sema, justement.
Ouais.
Ça, je me rappelle, mais ouais, c'est un peu vague, mais...
Et du coup,
là, j'ai honte, presque. On était des gamins.
Depuis cet incident, mes parents, évidemment, n'étaient plus tellement d'accord que je continue de fréquenter Christophe. Et comme j'avais été bousculé par cette première rencontre avec la justice et que je ne voulais absolument pas réitérer cette expérience, je leur ai obéi et j'ai moi aussi pris mes distances avec lui. On s'est recroisés comme ça de temps en temps pendant des années, jusqu'à ce qu'un jour j'apprenne la maladie de son frère Christian, puis la sienne. Et puis récemment, m'est revenu en mémoire quelque chose que j'avais... depuis longtemps oublié, et qui, peut-être, était la première raison, dormante, inavouée, qui m'avait fait commencer cette expérience. Ouais, et du coup, il y a un autre souvenir qui m'est revenu, parce qu'en fait, moi, j'avais aussi oublié des choses, tu vois.
Ouais.
Et en discutant avec les autres, quoi,
ouais.
Y a un moment, il y a des choses qui me sont revenues aussi.
Ça me rassure de voir que je ne suis pas seul à avoir des problèmes de mémoire, tu vois.
Et il y a un truc en particulier qui m'est revenu, Tu parlais avant de liens avec, avec l'au-delà, de signes qui te viennent de l'au-delà. Ah ouais. Je me suis rappelé d'un truc très fort, c'est que un jour j'étais venu chez toi un week-end, ici, je pense pas dans cette tour, mais peut-être dans l'autre en face. Ta maman, elle était encore vivante, mais elle allait pas bien vraiment à ce moment-là.
Ouais.
Et elle était dans le salon, je crois. Et puis, elle était assise dans le salon. Elle avait déjà une sorte de foulard, je crois, à ce moment-là, ouais, pour cacher qu'elle avait perdu les cheveux. Et je me souviens qu'elle nous avait appelés dans le salon. Elle avait dit, elle t'avait appelé toi, puis elle m'avait dit de venir aussi. Et on était allés dans le salon. Elle t'avait dit à toi d'abord, « Ouais, Christophe, il faut que tu fasses comme David à l'école. » Parce que David, il fait des bonnes notes, donc il faut vraiment que tu fasses comme...
Je fasse pareil.
Tu fasses comme près d'exemple sur lui. Parce que lui, il fait pas de bêtises ou je sais pas quoi. Mais ce qui m'a marqué, c'est qu'après, elle m'avait dit un truc à moi. Et elle m'avait dit, « David, maintenant, tu dois prendre soin de Christophe.
» Il t'a pris soin de moi.
Mais ouais, du coup, ça... Ça m'a fait cet effet-là quand je travaillais sur le podcast. J'ai eu comme l'impression tout d'un coup qu'il y a ta maman qui était derrière moi et qui me disait « c'est pas trop tôt
». Mieux vaut tard que jamais. C'est ça, non ?
Je repense souvent à Christian, son frère, que j'ai aussi connu. Lorsque j'étais en Égypte, quelques mois après son décès, j'ai été assisté à un spectacle d'une compagnie locale et je me souviens que ce soir-là, l'espace de quelques secondes, j'ai eu l'impression de voir son visage sur les traits d'un autre visage, d'un des acteurs qui était sur scène. Et qu'à l'époque, je m'étais raconté que, d'une certaine façon, il était venu me dire au revoir.
Mais c'est marrant parce que c'est exactement ce que pensait aussi Christian. Même s'il ne s'exprimait pas, c'est vrai qu'on lui demandait souvent... ça va, tu t'ennuies pas trop, etc. Et en fait, il avait une super terrasse en face des Dents du Midi, là. Mais face, voilà, une belle vue sur le lac, sur les montagnes, une vue qui était juste incroyable. Et en fait, il nous montrait de la main, en fait, ce paysage. Et voilà, après, Christian, c'est un artiste, c'est un photographe, etc. Donc c'est sûr, je pense, pas me tromper en disant que de toute façon, il avait pas le même regard que nous. Mais justement, en nous montrant ça... Ben, je pense que je me suis inspirée de lui en disant ça. Ben ouais, non, en fait, quand on lui disait « tu t'ennuies pas », ben non, en fait, il nous montrait de la main ce paysage. Et puis, il nous expliquait tant bien que mal que ben, ça change, que les nuages, elles sont d'un côté, puis de l'autre, la lumière du soleil qui se reflète sur cette montagne, et puis voilà. Et c'est tout à fait juste, en fait. Moi, je rêve de liberté, après, c'est un grand mot, mais... Là, actuellement, c'est sûr, je ne me donne pas forcément les moyens d'être libre, entre guillemets, mais c'est vrai que moi, mon rêve, ce serait ouais, d'être vraiment libre, d'avoir le temps de faire ce que j'ai envie, quand j'ai envie. Et ça, c'est un peu, bah, encore une fois, à travers Christophe et Christian, que j'ai appris à relativiser un peu les choses, de voir la vie d'une autre manière. Aujourd'hui, j'aimerais voyager, j'aimerais, je sais pas, connaître d'autres manières de vivre, de manger, de s'amuser. J'ai besoin, ouais, j'ai faim de découvrir plein de choses. Et bah, c'est vrai qu'avec Christophe, on se disait que notre... Enfin, lui, il a ses rêves, moi, j'ai les miens, mais on va dire qu'en commun, on aimerait vraiment énormément voyager. Donc, c'est vrai que moi, c'est la seule chose qui me trotte. Là, c'est le temps qui passe, qu'est-ce qu'on en fait. Et j'essaye d'aviser au mieux, voilà.
Lorsque j'ai revu Christophe pour la première fois en juin dernier, il m'avait avoué à ce moment-là que si son nouveau traitement ne fonctionnait pas, il ne lui resterait probablement plus que 2 années à vivre. Depuis ce jour, je n'ai pas cessé de penser à lui, à sa mémoire et à ceux qu'il avait perdus. Je ne crois pas que ce qui m'a poussé à me plonger dans le passé de Christophe s'apparente à une sorte de refus de la mort physique. Simplement parce que je ne peux pas refuser l'idée qu'un jour ou l'autre, Christophe va mourir. Ce serait vivre dans un mensonge. Et dans mensonge, il y a le mot « songe ». Non, ce que je refusais, je crois, c'était que sa mémoire disparaisse pour toujours et qu'avec elle disparaisse son enfance, la mienne et celle de tous les autres enfants de la cité. Je refusais aussi que les injustices prennent le dessus, que sa douleur ne soit qu'une phrase jetée quelque part au détour d'une conversation. L'idée que l'existence de Christophe se transforme en un simple souvenir était devenue insupportable pour moi. Moi qui l'avais vu si vivant et qui continuerais de le voir ainsi. Lui que je considère comme mon meilleur ami d'enfance. Peut-être que ce que je cherchais, finalement, c'était que sa vie devienne une expérience commune et qu'elle rayonne à jamais au-dessus des tours, qu'elle devienne aussi éternelle que le soleil. C'est peut-être un désir impossible et ça ne lui rendra pas la santé ni sa famille. Mais je me dis qu'au moins, nous aurons tous et toutes pris un peu soin de lui et que quelque part, la promesse que je lui avais faite, enfant à sa mère, serait tenue. C'est peut-être un désir impossible. Mais de quoi sommes-nous faits, sinon de désirs impossibles ?
Donc voilà, je sais pas si ça te plaît. Ben, je continue à parler. Hein.
C'est parfait.
Mais j'ai tellement répété, revenu au début, machin, si c'est pas clair du tout, si tu vas devoir couper, remettre, puis que ça te plaît pas, il faut vraiment que tu lises et j'essaie de recommencer, tu vois. Ça
me dérange pas du tout. C'est très bien.
Mais, donc ouais, j'espère que vous comprenez ce que je dis et puis que je m'exprime correctement, que tout est clair, que je me répète pas trop. Et puis je vous souhaite la santé, le bonheur, tout ce qu'on ne peut pas acheter tout simplement. Et puis voilà.
À l'ouest des cités, le bitume sous le pied, on construit des murs à l'ombre de l'enfance. Le centre du monde est un
podcast écrit et réalisé par David Janelas. Musique, Virginie Janelas. coproduit par le Théâtre Forum Mérin et Radio Bascule.